Alors, l'esprit divin est christique et radical. Êtes-vous d'accord ?
Ah, mais même là, revenons, j'allais dire, sur terre, ce qui est magnifique dans les paroles de Jésus, c'est leur intransigeance, c'est leur radicalité. Que ton oui soit oui, je vomis les tièdes. Enfin, ce qui est extraordinaire, et pourquoi, entre autres, il est possible d'aimer follement Jésus, le Christ, c'est parce que cet être d'absolu, c'est qu'il est terriblement intransigeant, donc il ne fait pas de cadeaux, et en même temps, magnifiquement, supérieurement aimant. Donc il conjugue ces deux dimensions. S'il n'était qu'intransigeant, ce serait horrible, parce que ce serait pas un despote, mais quelqu'un qui juge uniquement, et c'est terrible, qui condamne. Et en même temps, il est quelqu'un d'immensément aimant, compatissant, bienveillant, etc., et tendre. Voilà. Mais ça me permet de dire que de nos jours, on ne comprend pas l'intransigeance qu'on confond avec l'intolérance. Voilà. Et intolérance, ça veut dire, c'est en effet désagréable, être intolérant, c'est-à-dire c'est refuser que l'autre il pense pas comme vous, il ne prie pas comme vous, il n'a pas les mêmes goûts, et on l'exclut, on le chasse. Donc sur le plan, là on est dans le domaine social, historique et horizontal. Sur le plan spirituel, la parole spirituelle, et là on retrouve un peu l'histoire de animus anima, l'ombre, etc., on ne pactise pas, il n'y a pas de compromis possible, de nos jours on dirait négociation possible, entre deux termes. L'intransigeance, c'est je sers un maître à la fois. Là aussi c'est des paroles de l'évangile. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de dualité possible. Donc toute parole spirituelle, véritablement spirituelle, est intransigeante. Et pas par rapport à la personne qui prononce, mais par rapport à l'absolu qui, en effet, est intransigeant. C'est pas un petit peu, de même, on peut dire « Ah, je t'aime un peu, je crois un peu en Dieu ». Non, j'aime ou je n'aime pas, je crois ou je ne crois pas. Donc tous les moyens, les choses moyennes qui essayent de faire des compromis, je veux ça et ça, c'est en effet pas d'ordre spirituel, ça on peut le dire.
Oui. Et puis, alors, vous nous l'avez bien expliqué précédemment, différence entre voilà, spirituel, religieux, égo, être, etc. La version chrétienne de l'être humain, Paul l'apôtre, oui, qui parle de l'être humain comme étant illique, psychique, pneumatique. Alors évidemment, il définit trois types d'êtres humains. Alors, on a évoqué l'être psychique avec Jung tout à l'heure un peu, voilà. L'être illique, bon bah c'est l'ego, on peut dire que c'est l'ego, voilà.
Oui, c'est la partie charnelle mortelle, à savoir la personne qui se confine à sa condition existentielle. Alors l'aspect illique, c'est la goinfrerie, l'avidité, tout ce qui enrichit donc l'ego, tout ce qui enrichit en effet mon gros moi qui va périr.
Mais c'est le péché capital. Et donc pneumatique. Alors quelle mission pour le pneumatique ? Le pneumatique étant celui qui est né à l'esprit, voilà. Et doit-il se contenter d'être un signe ? Je pense que vous êtes quelqu'un de pneumatique, Jacqueline Kellen. Et donc moi, la question que j'avais à vous poser, c'est est-ce que vous êtes au courant de votre mission ? Est-ce que vous savez quelle est votre tâche sur cette terre ?
Je pense que c'est très...
Parce que vous vivez, je pense que vous vivez en ermite, c'est ce qui était dit sur un livre au cœur de Paris.
Je réponds, oui, alors je réponds à l'ermite. Je réponds à l'ermite parce que ça me fait rire, parce qu'un jour, je crois, une journaliste a dit que je vivais en ermite, etc. Donc, j'ai besoin, mais éminemment besoin de silence et de solitude pour lire, pour étudier, parce que c'est ma substance, on met deux colonnes. Bon. Mais vivre en ermite, ça veut dire que je suis au fond d'une grotte et que je n'aime pas rencontrer les personnes, je suis passionnée, j'aime éminemment, la preuve, les rencontres, la conversation, j'aime partager un repas, j'aime danser, j'aime rire éminemment, donc je ne vis pas du tout ni isolée, ni en ermite. Mais je défends farouchement, en effet, mes heures de silence, et nécessairement pour étudier, pour écrire, pour réfléchir, j'ai besoin de silence. Ça me paraît. Voilà. Mais ça m'amuse, cette histoire. On a comme ça des choses de même, l'esprit de solitude. Ah oui, vous avez écrit l'esprit de solitude, donc je suis solitaire. Et moi, je suis toujours obligée de dire l'esprit de solitude, c'est la liberté. Avoir l'esprit de solitude, c'est ce qui s'oppose à l'esprit de groupe, de parti, de rassemblement, de collectif. L'esprit de solitude, c'est la singularité. Donc ça n'a rien à voir avec je suis seule et je ne veux pas voir les autres et je vis entre quatre murs, et etc. Voilà. Donc, c'est très beau, cette répartition. Et on a un peu des trois. Heureusement qu'on est aussi incarné. Et donc, c'est très bien de partager un repas. C'est très beau, la condition humaine aussi. enfin les ressources du corps sont très importantes, et prendre soin de son corps, ça me paraît aussi honorer la personne et honorer le divin. Bon, mais il n'y a pas que ça, en effet, on n'est pas que ça. L'aspect psychologique, finalement psychique, me dérange plus que l'aspect du illique, parce que le psychologique se croit souvent spirituel. Bon, alors qu'il ne l'est pas. Hein, simplement, il est cérébral, mental, mais il n'est pas... Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une mission ? Il me semble qu'à un certain moment, je pense...
Vous êtes écrivain déjà, donc... Oui.
Non, mais je suis écrivain, attendez. Moi, je ne pensais pas être écrivain quand j'avais 14 ou 20 ans. Bon, alors, comme beaucoup d'adolescents ou d'adolescentes, j'écrivais des poèmes, etc. Mais je ne savais pas du tout que j'allais écrire. Donc, non, mais ce n'est pas parce qu'on a un métier artistique ou qu'on est peintre ou qu'on est danseur ou danseuse qu'on a une mission. Hein. Ça peut être une routine, ça peut être familial, ça peut être un conditionnement. Donc moi, c'est pas en tant qu'écrivain, mais en effet, tant mieux si ça passe par l'écriture et aussi un peu par la parole. Mais je pense que c'est important pour chacun de se dire, est-ce qu'il a une vocation, une mission ? Je suis, moi, persuadée que chaque être humain a une vocation céleste à accomplir. Il n'est pas de ce monde, donc il doit accomplir sa mission, sa vocation céleste. Ça, c'est donc pour tout le monde. Voilà la grande démocratie, vous voyez, pour spirituelle. Bon, mais il y a en effet des missions particulières. C'est pour ça que ça me touchait aussi quand vous parliez de prophètes à propos de Jésus selon le Coran. Parce que les prophètes, la parole prophétique, c'est ce qui manque le plus à notre monde. Et non seulement, je relisais il n'y a pas longtemps, je plongeais, mais quelle merveille, Isaïe, par exemple, dans la Bible. Parce que non seulement c'est une vigueur extraordinaire, il ne s'embarrasse pas en effet de savoir s'il va être approuvé ou pas, parce qu'il obéit à une instance supérieure, c'est ça qui est magnifique. Et puis il y a un langage de lyrisme qui dépasse en effet le langage commun. Alors, la parole prophétique me passionne parce que, justement, elle ne dévoile pas l'avenir, on le confond toujours, mais elle est reliée à ce qui ne passe pas. Alors, en ce sens, je peux dire, moi j'essaye de témoigner dans mes livres, et pas par volonté, moi je ne cherche pas à plaire au public, sinon j'aurais écrit autre chose, je ne cherche pas à plaire à un éditeur, d'ailleurs il s'en fiche, mais il me semble qu'il y a des thèmes, en effet, qui ne passent pas, et c'est pour ça que je suis amenée à écrire sur l'amitié, l'amour, sur des thèmes intemporels. Et de rappeler, en effet, des vérités éternelles. À une époque où tout est relatif, fluctuant, contingent, ça me paraît capital, en effet, de se référer à ce qui ne passe pas. Vous savez, de nos jours, tout le monde parle de changement, comme si c'était un mieux. Tous les hommes politiques, quel que soit leur bord, « Ah, mais ce sera mieux, on va changer. » Alors que, justement, c'est la loi même de notre monde, d'en bas, le changement. Nous, on est dans le changement, dans le déclin, la génération, alors que le monde divin, c'est le monde qui ne passe pas, l'immuable. Donc moi, je suis attirée, en effet, par l'immuable. Et c'est ça qui me redresse. Plus, je crois, un individu parle de lui, ne parle de ses histoires, de sa famille, etc., plus c'est périssable. Et plus, en effet, je me dégage de mon moi, où je l'oublie, où ça ne me paraît pas intéressant, plus, en effet, je peux m'ouvrir à d'autres dimensions. L'espace s'ouvre différemment. C'est toujours, je reviens toujours au Phédon, où Socrate nous compare, nous les mortels et ses contemporains aussi, à des petites grenouilles. C'est mignon les petites grenouilles. Grenouilles autour d'une mare. Et les grenouilles, toute leur vie durant, koa, 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 moi, 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 je dirais. Et puis elles ne voient pas l'espace tout autour et le ciel étoilé. Voilà notre condition terrible. Si on ne s'élève pas jusqu'au pneumatique, en effet, cette dimension-là.
Et alors, est-ce que vous avez cette sensation d'être un témoin de ce monde, un peu ?
De ce monde de là-haut ?
Non, d'ici.
D'ici, alors, peut-être, en ce sens, enfin pas dans son côté vulgaire, j'espère, veulé de compromission, mais ce qui me paraît intéressant, d'un point de vue spirituel nécessairement, en ce monde, c'est que, actuellement, et depuis déjà plusieurs décennies, ce sont des laïcs, au sens authentique du terme, à savoir qu'ils ne sont pas religieux, qu'ils ne sont pas consacrés, qu'ils ne sont ni moines, ni religieuses, ni moniales, ni archevêques, ni quoi que ce soit, n'appartenant pas à l'Église, ce sont des laïcs qui sont les passeurs ou les transmetteurs, justement, d'une voie spirituelle. Ce sont les témoins privilégiés de l'absolu. Quand on pense, alors maintenant on la connaît beaucoup, mais on parlait de Ethyl Soum, bon, qui inspire et illumine et éclaire beaucoup de vie, nourrit beaucoup de vie, et elle était ni juive, ni ceci, ni cela, et voilà. Quand on pense à Simone Veil, elle aussi, même si elle a eu une expérience, des expériences mystiques avec le Christ. Et ce qui m'amuse aussi, tout sens, c'est un clin d'œil de Dieu, je crois, un clin d'œil, ce sont les apparitions de toutes ces dernières années, y compris du 19e siècle, où la Vierge ou le Christ, mais parlons surtout des apparitions mariales, eh bien, les apparitions mariales se produisent auprès ou d'enfants ou de femmes ou d'hommes laïcs, et jamais, jamais d'évêques, de prêtres et de papes. Et ça m'amuse parce que ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes religieux que vous avez part à des réalités supérieures, que vous aurez part à un message privilégié. Vous n'êtes pas les préférés. Ça, ça m'amuse bien.
Donc, c'est voilà. Le cas d'ailleurs de Guita, je pense.
Et de Guita, bien sûr, parce que les quatre amis, les quatre personnages, les quatre héros, j'allais dire, de cette merveilleuse et terrible aventure, en effet, des dialogues avec l'ange, étaient en effet amis, mais n'avaient pas de pratique, avaient à peine de croyances, juifs et non-juifs, voilà. Donc l'esprit souffle où il veut, on est bien d'accord. Je crois que c'est ça le défi de notre temps. Enfin, bon, ça c'est la parole de Jésus, être dans le monde sans être du monde. Être dans le monde sans être du monde, c'est pas, ah ben je vais au fin fond d'un monastère où je vais être ermite ou faire une retraite de 2-3 ans, bon, ou être ermite comme moi je suis censé être ermite. Non, pas du tout. C'est être avec ses contemporains, connaître le prix, en effet, contrairement aux politiciens, le prix d'un ticket de métro, le prix de la baguette de pain, voilà. Et puis être heureuse aussi d'être dans cette époque. Moi, je me dit, la merveille, moi je rappelle toujours d'être à notre époque, c'est sur le plan intellectuel, nécessairement culturel, et ça, c'est d'avoir apporté de nous tous les textes, tous les écrits qui ont été produits. On a quand même cette chance, on n'a pas besoin d'enfin, c'est en bibliothèque ou c'est en livre de poche, traduit dans notre langue maternelle, et ça, ça peut être en anglais, en français, en italien, etc. Vous imaginez, quand même pendant des siècles, on n'avait pas traduit Platon, on n'avait pas accès à tout cela. Donc ça, c'est une extraordinaire merveille pour l'étude, pour la connaissance. Voilà. Donc j'espère être de mon temps, je ne me sens pas du tout marginalisée, mais pas du tout. Mais je n'oublie pas, en effet, ce qui me fait tenir debout, ce qui me rend vivante, en effet. Si je dénie, je refuse la transcendance et cette dimension supérieure, bon, ben, je tombe en poussière. Et je suis en effet une pauvre bête.